podcast.
La première.
Niwa, Corinne Boulanger.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur La Première, ravie de vous retrouver. En ce jeudi, jusqu'à 14h, au programme de cette émission NUA, des coopérations Nord-Sud, développées dans le cadre de la Faculté des sciences appliquées de l'ULB, des projets variés tels que production d'eau potable, production d'énergie solaire à des fins médicales ou encore production d'agrocarburants, des projets Nord-Sud auxquels collaborent des étudiants belges. On en parlera vers 13h45. Mais on commence cette émission avec un des grands enjeux de demain, nourrir durablement 9 milliards de terriens.
La première, NUA.
Et ce jeudi, nous voulions attirer votre attention aussi sur une grande exposition pour toute la famille qui se tiendra ce week-end et jusqu'au mardi 20 juin à Gembloux, au beau milieu d'un champ en plus. Ça s'appelle « Nourrir durablement la planète ». On en parle avec le coordinateur de cette expo, c'est Bernard Baudson qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous Bernard Baudson. Alors cette exposition « Nourrir durablement la planète », on le comprend bien, hein, c'est une sensibilisation aux enjeux de l'alimentation demain, des enjeux qu'on ne soupçonne pas toujours et pourtant des enjeux essentiels. Le premier étant peut-être de nourrir 9 milliards d'hommes et de femmes en 2050. C'est imposant quand même.
Oui, c'est imposant. Ça veut dire que par rapport à la situation actuelle, c'est 2,3 milliards d'habitants en plus qui seront sur la planète et qu'il faudra bien sûr nourrir.
Mmh. Alors, cette exposition sensibilise aux enjeux, aux problèmes rencontrés, aux solutions, aux pistes de solutions, aux réflexions qui sont amorcées. Pointons peut-être les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'urbanisation se développe au détriment souvent des surfaces cultivées et donc se posera très vite la question de savoir où on cultive et comment on produit tout ce qu'il faut pour nourrir ces milliards d'hommes et de femmes.
Oui, on pourra sans doute mettre en culture, mais pas dans nos régions, parce qu'on est déjà pratiquement en saturation, mais en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, on pourra mettre 120 millions d'hectares, à peu près, ce qui fait à peu près quelques pourcents en plus par rapport à ce qui est cultivé actuellement, mais entre-temps, on perdra 50 millions d'hectares pour l'urbanisation.
Mmh.
Donc là va se poser un problème, c'est qu'on pourra accroître un petit peu les récoltes par rapport aux surfaces cultivées, mais de manière relativement peu importante. Donc il faudra quelque part intensifier la production partout où ce sera possible dans le monde pour pouvoir arriver à ce que la FAO, des groupes de réflexion comme AgriMonde, estime d'à peu près une augmentation de la production nécessaire pour que tout le monde arrive à avoir ses 3000 calories par personne et par jour, d'à peu près 70% de la production actuelle.
Autre enjeu aussi, toujours à propos de l'acheminement de l'alimentation, c'est qu'on le sait, de plus en plus, les populations se concentrent dans les villes. Ce sont des mégapoles qui se multiplient aujourd'hui. Conséquence de ça, les difficultés d'approvisionnement apparaissent. Quelles pourraient être les pistes de réflexion mises en place par rapport à ces difficultés d'approvisionnement? Quelles seraient les bases de développement d'une agriculture capable de nourrir sainement tout le monde?
Mais je crois que quelque part, en termes d'approvisionnement des villes, ça imposera bien sûr des gros problèmes de logistique. Ça imposera aussi probablement des développements dans ce qu'on appelle des agricultures urbaines ou périurbaines. Comment utiliser au maximum les espaces? C'est une première chose. Deuxièmement, il y aura bien sûr toute la technologie qui devra être aussi utilisée pour faire en sorte que les aliments qui sont produits en dehors de ces villes arrivent sans qu'il y ait de pertes auprès des consommateurs.
Mmh.
Et donc là, il y a toute la problématique de l'infrastructure, toute la problématique des technologies, je dirais, de traitement des aliments qui sont aussi importantes.
La problématique peut-être des réseaux courts aussi d'alimentation.
Oui, les réseaux courts d'alimentation, mais il faut aussi bien se rendre compte que lorsque l'on aura des mégapoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants, parce que les plus grandes villes seront de cette taille-là, à partir de ce moment-là, chacun ne va pas pouvoir aller avoir des circuits courts. Non, il faudra des circuits qui soient sans doute mieux organisés que maintenant.
Ouais.
Et qui ne reposeront pas seulement sur de la grande importation, mais aussi sur des transferts corrects entre les régions productrices et les régions où la consommation va être concentrée.
Alors vous l'avez dit, Monsieur Baudson, la question qui se profile aussi derrière cette question de l'alimentation de 9 milliards d'hommes et de femmes en 2050, c'est la question de savoir comment augmenter la production, comment l'augmenter en augmentant sans doute les espaces cultivables sans effet pervers potentiel, sur la biodiversité par exemple, comment augmenter cette production aussi, comment l'intensifier tout en gardant en tête qu'il faut préserver l'environnement aussi, et donc peut-être repenser l'agriculture telle qu'elle se développe aujourd'hui?
Oui, on y travaille. Hein. Je dirais les chercheurs du centre de recherche de Jean-Gouin Agrobiotech qui travaillent déjà depuis longtemps sur et mettent au point des techniques qui ne sont peut-être pas encore toujours utilisées, mais qui vont l'être, ou quelque part, on va chercher à utiliser de manière optimale l'ensemble des ressources, des processus naturels. Et puis, il faudra compléter ces ressources et ces processus naturels par une utilisation, mais tout à fait raisonnée, d'intrants et de techniques qu'on utilise en partie dans l'agriculture actuellement. Cela pour pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que chaque endroit ou chaque écosystème, à un moment donné, puisse vraiment produire le maximum que ce que les éléments naturels, l'eau, l'air, le sol, lui permettent de produire.
Oui. Dans l'exposition apparaît, c'est intitulé à un moment, il faudra développer des agricultures à haute intensité écologique. Ce qui se profile derrière toute cette réflexion, c'est peut-être pas une agriculture biologique au sens strict, mais c'est en tout cas une rationalisation des moyens de production. On pourrait peut-être penser à l'agriculture raisonnée, en fait, dont on parle beaucoup.
Oui, l'agriculture raisonnée, elle est, dans nos pays occidentaux, elle est déjà pratiquement d'application. Au cours des dernières années, il y a eu des progrès énormes au niveau des utilisations beaucoup plus raisonnées. Ce qu'il faudra à l'avenir, c'est encore mieux utiliser les potentialités de la nature, des potentialités au niveau de la microbiologie des sols, par exemple, où là, il y a encore vraiment des innovations à apporter et qui se profilent. Et puis aussi, il y a d'autres techniques comme l'informatique, comme le monitoring des processus qui vont pouvoir, à un moment donné, aussi être mis en œuvre pour pouvoir, à chaque endroit, arriver à produire, mais produire de manière tout à fait durable, sans que on nuise aux constituants de l'écosystème. Et ça, par exemple, dans l'exposition, on va vous montrer que, quelque part, au niveau de l'alimentation des plantes, l'alimentation des animaux, il y a l'un des pistes intéressantes. Qu'au niveau de la protection des cultures, on est dans une phase de révolution. La société a demandé qu'on utilise moins de pesticides. Mais quelque part, on peut aussi développer des moyens de lutte, d'y intégrer, mais des moyens de lutte, je dirais, beaucoup plus intéressant que ce qu'on a utilisé peut-être par le passé.
Voilà, et qui respecte davantage et l'environnement et les besoins alimentaires importants hein, qui se profilent vraiment. On aurait pu évoquer aussi avec vous, Monsieur Baudson, cette indispensable réflexion sur les changements de nos comportements alimentaires aussi, peut-être privilégier une alimentation d'origine végétale, un peu moins carnée. Ce sont des choses aussi qui sont évoquées dans cette exposition. L'exposition destinée au grand public, encore une fois, elle se tiendra du 19 au 22 juin, priorité ce week-end aux familles et puis lundi et mardi aux écoles qui voudraient venir visiter tout ça. C'est une exposition organisée par Jean Blou Agrobiotech et le Centre Wallon de Recherche Agronomique. Une expo gratuite, il faut le signaler. Et pour toute information, c'est le 081 62 21 40 qu'on peut former ou bien le www.nourrirlaplanète.be. Mille merci Bernard Baudson.
Merci beaucoup.
Merci bien d'être venu faire ce point d'actualité avec nous.
De 13h30 à 14h sur la première.
Depuis 2006 existe à la Faculté des sciences appliquées de l'ULB la CODEPOT, cellule de coopération au développement. Ce sont des projets de coopération avec le Sud qui y sont développés, notamment via des mémoires menées par des étudiants et dont les retombées sur le terrain sont bien concrètes. Aujourd'hui, dans NUA, on souhaitait faire un focus sur ces initiatives avec Benoît Haut, coordinateur de projet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis également avec une mémorante qui est à côté de vous et qu'on entendra dans un instant, qui était partie s'occuper d'agrocarburants au Mali. C'est Amandine Capra. Alors Benoît Haut, ils sont nombreux, ils sont variés aussi ces projets de coopération avec le Sud que vous développez. Il faut dire qu'il y a une multitude d'intérêts là derrière, hein, pédagogique et puis aussi l'intérêt d'établir un réseau de solidarité Nord-Sud plus globalement.
Oui, tout à fait. Donc on est parti du principe avec quelques collègues il y a maintenant un peu plus de 4 ans qu'on avait à l'ULB pas mal de laboratoires impliqués dans la coopération au développement et qui ont des spécificités, mais aussi des étudiants vraiment motivés à l'idée de participer à ce type de projet. Et donc, on a choisi de créer cette petite cellule qui a vraiment comme objectif une mise en relation entre ces étudiants, ces laboratoires et des acteurs au Sud, des universités, des ONG, qui sont demandeurs de collaboration donc dans le domaine des sciences appliquées.
Mais voilà, ça c'est essentiel sans doute, c'est que tous ces projets, ils répondent à une demande émise par un pays en voie de développement.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une condition nécessaire donc au développement d'un projet, c'est que la demande soit issue d'un de nos partenaires au Sud, dans des thématiques variées auxquelles les laboratoires de la faculté peuvent donc amener une réponse.
Oui, l'objectif, c'est vraiment concrètement, sur le terrain, pouvoir contribuer à faire se développer quelque chose.
Oui, tout à fait. Donc on présente aux étudiants les projets finalement dans un moule qui est toujours le même. Pendant leur année de travail à l'ULB, ils vont faire une étude de faisabilité relative donc au projet. Et puis, à un certain moment, ils vont partir au Sud, accompagnés d'une ou deux personnes de la cellule, pour pouvoir vraiment mettre en pratique sur le terrain ce qu'ils ont développé pendant l'année.
Alors j'imagine que du point de vue strictement du corps professoral aussi, l'objectif il est pédagogique, on l'a bien compris. Réaliser un projet avec les contraintes du terrain là-bas, des contraintes techniques, des contraintes culturelles aussi, ça amène à devoir se décarcasser parfois, non ?
Ah, tout à fait. Donc c'est évidemment très très intéressant pour les étudiants. Tout d'abord parce qu'ils ont un projet concret qui n'est pas purement académique. Donc il y a une obligation de résultat, ce qui est aussi un challenge pour nous, évidemment. On constate que les étudiants s'investissent vraiment très très fort dans ces projets. Ils consacrent bien plus de temps que le temps qui est initialement prévu pour ces projets dans leur horaire. Et alors évidemment, le fait de devoir travailler avec des acteurs au Sud, sous certaines contraintes, et de se rendre sur place là-bas pour développer une nouvelle culture, participe grandement donc à leur formation.
Mmh, ça participe aussi à ouvrir les yeux, et peut-être pas seulement les leurs, ceux de tous ceux qui collaborent de près ou de loin à ces projets, ouvrir les yeux sur les réalités, les difficultés d'implémenter ces grandes problématiques liées au développement durable qui nous occupent de plus en plus, nous ici au Nord, et qui vraiment, dans les pays en voie de développement, sont heurtés à des impératifs de terrain qui parfois nous dépassent.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est bien évidemment un des objectifs de ce type de projet. Au-delà de la simple réalisation technique sur place, on espère aussi que les étudiants, au travers de cette première expérience de travail dans un pays du Sud, on va pouvoir ainsi leur ouvrir les yeux sur la réalité de ces pays, et on espère que ça pourra évidemment avoir un impact sur leur vie professionnelle future.
Voilà, et parmi ce vivier d'étudiants qui peut-être développeront d'autres projets dans l'avenir, il y a Amandine Capras qui est partie, elle, au Mali, s'occuper d'agrocarburants. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Voilà. Alors Amandine, c'est pas n'importe quel agrocarburant dont vous êtes partie vous occuper là-bas, c'est plutôt l'huile de jatropha. En deux mots, qu'est-ce que c'est que cette huile de jatropha ?
Voilà. Eh bien, le jatropha, c'est un arbuste qui est utilisé traditionnellement par les paysans maliens en pourtour de leurs champs pour les protéger des animaux, mais également pour prévenir l'érosion du sol. Mmh. Et cet arbuste est déjà utilisé pour ses vertus médicinales, et les femmes utilisent d'ailleurs déjà l'huile des graines des fruits pour faire du savon. Alors, on s'est rendu compte que ces graines de fruits de jatropha curcase étaient très oléagineuses. De là, l'idée, du coup, d'en extraire l'huile et d'utiliser brut comme carburant dans les moteurs diesel.
Mmh. Alors, une parenthèse sur ces fameux agrocarburants. Au-delà de cette huile de jatropha, ils ont suscité, on le sait, un véritable engouement. Et puis, maintenant, ce sont de nombreuses questions, voire une polémique même qu'ils suscitent, particulièrement dans nos pays du Nord, encore une fois. On sait que ces agrocarburants, ils risquent d'affecter l'indépendance énergétique, la souveraineté souveraineté alimentaire, la préservation de l'environnement aussi et de la biodiversité. Au sud, malgré tout, et s'agissant peut-être tout spécifiquement de cette huile de jatropha, ce recours à ce type de carburant alternatif, ça reste pertinent et ça peut véritablement constituer un levier au développement ?
Alors oui, tout à fait, c'est vraiment une réelle opportunité de développement en zone rurale. Alors, pour un peu vous expliquer, le projet que j'ai intégré au Mali visait à accompagner donc les paysans dans cette production d'huile de jatropha curcas et de créer une filière énergétique de proximité. Mmh. Alors, proximité, ça signifie que l'on va produire, transformer et utiliser l'huile de jatropha curcas à l'échelle d'un territoire restreint. Donc, si vous voulez, eh bien, l'équilibre économique et alimentaire sont préservés, car les producteurs, en fait, d'huile de jatropha cherchent à satisfaire la demande exclusivement locale.
Oui, et donc la production d'huile de jatropha n'entre pas en concurrence avec d'autres productions alimentaires, par exemple, ou d'autres espaces nécessaires à la biodiversité.
Voilà, c'est ça. Bon, actuellement, il n'y a pas vraiment un problème de disponibilité de terre au Mali. La plantation de jatropha curcas n'est pas un réel souci. Bon, un petit bémol quand même. Quand on regarde le taux de croissance de la population au Mali, qui est de plus de 2,5%, pour vous situer, c'est à peu près plus de 20 fois le taux de croissance de la Belgique. Mmh. Alors, on peut supposer que dans quelques années, tout de même, il y aura un conflit de terres où les Maliens seront confrontés à un souci de disponibilité alimentaire. Et donc, clairement, il y aura une réflexion à faire sur est-ce qu'il faut mieux privilégier les plantations énergétiques ou non. Alors, bon, selon moi, je ne pense pas que ça remet en question, bon, en tout cas ce projet-ci, de développement des filières énergétiques. Je pense qu'en parallèle, il faut également accompagner les paysans dans leur culture alimentaire pour essayer d'améliorer leur rendement.
Alors, c'est un projet que vous avez développé, Amandine Capras, là-bas au Mali, avec GERES, une ONG française dont le but est de promouvoir les énergies renouvelables, tout en offrant un levier au développement durable. Concrètement, votre job à vous, qu'est-ce que c'était ?
Alors, mon travail s'est axé exclusivement sur l'étude de la qualité de l'huile de jatropha, puisqu'en fait, pour que cette huile soit utilisée dans les moteurs diesel, eh bien, elle se doit de répondre à certains critères de qualité. Par exemple, si vous prenez la teneur en acidité, si celle-ci est trop élevée, eh bien, des effets corrosifs peuvent être induits et être ainsi dommageables pour les moteurs, ce qui évidemment n'est pas recherché.
Mmh. Et j'imagine aussi que tous ces impératifs de développement de cette huile, il fallait qu'ils soient adaptés aussi aux contraintes et aux disponibilités, aux possibilités là-bas rencontrées par la société malienne.
Oui, c'est sûr que les capacités locales d'analyse sont bien différentes d'ici. Quand on pense aux conditions de sécurité en laboratoire, elles sont assez précaires. Il y a souvent des coupures d'eau, d'électricité. Les compétences aussi des laborantins sont très limitées puisque la formation au Mali l'est aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement sur place ? Eh bien, c'est apporter du matériel avec moi. Mm-hmm. Le manque de matériel aussi est grandissant là-bas. Et j'ai formé des laborantins aux analyses pour que, quand je suis de retour en Belgique, eh bien, ils soient à même d'analyser l'huile de jatropha pour le projet.
Oui, c'est
donc,
ça,
c'est vraiment un réel transfert de compétences.
Et c'est prendre leur indépendance aussi, c'est finalement implémenter un nouveau projet, en fait, pour que les interlocuteurs locaux deviennent responsables et fassent durer tout ça dans le temps. C'est l'enjeu essentiel.
À terme, bien sûr, même l'ONG GERES se retirera du projet et le but, c'est que les Maliens gèrent eux seuls toute la filière qui sera mise sur pied.
Merci à vous, Amandine Capras, d'être venue faire avec nous ce topo sur ce projet que vous avez mené là-bas grâce à la CODEPO, cellule de coopération au développement qui existe à la Faculté des sciences appliquées de l'ULB. Pour toute information peut-être à propos de cette cellule de coopération au développement, il y a un site internet, le codepo.ulb.ac.be. codepo.ulb.ac.be.
Podcast La Première.